Nous sommes aux États-Unis en 1990 et l'histoire commence par un vol de logiciels. Apple soupçonne que le code source des ROM, équivalent du BIOS de ses ordinateurs Macintosh, n'ait été dérobé. La firme à la pomme est dans un instant critique car la gamme ultra rentable de ses ordinateurs Apple II a été retirée du marché quelques années auparavant, mais les ventes de Macintosh ne décollent que doucettement, sûrement dû à un prix de vente assez imposant. Pendant ce temps, les émulateurs de Macintosh commencent à fleurir et pourraient noyer l'original si ces ROM courent dans la rue, comme cela a failli être le cas avec les Apple II. L'enquête du dit Larsen est confiée au FBI qui peut enquêter sur les crimes fédéraux, c'est-à-dire ayant lieu sur plusieurs États grâce à son maillage de bureaux locaux et d'agents de terrain. John Perry Barlow, entre autres parolier du groupe de rock Grateful Dead, se retrouve perquisitionné dans cette affaire. Mais lors de cette intervention dans son domicile, il se rend vite compte que les agents fédéraux menant la procédure ne comprennent pas l'informatique. Il n'était donc pas sûr que ses droits de citoyen soient correctement protégés, et notamment le premier d'entre eux, qui est d'être présumé innocent, puisque la nature même du délit est totalement imperméable aux agents de police. Comme il le dit lui-même, avant même de pouvoir prouver mon innocence, il fallait que je décrive le délit. Or, depuis la fin des années 80, les États-Unis sont dans une époque de forte judiciarisation des délits informatiques allant jusqu'à l'absurde. L'éditeur de jeux de rôle Steve Jackson Games fut perquisitionné sur des soupçons de piratage informatique. En fait, la préparation éditoriale d'un jeu de rôle sur l'univers cyberpunk était vue comme un manuel criminel. Oui, un livre. On y parlait à outrance de hacker et de piratage. Oui, pour une œuvre de science-fiction présentée sous la forme d'un roman interactif. Les ordinateurs de Steve Jackson Games furent donc confisqués, mettant à mal une entreprise qui était florissante. Ainsi naquit l'IFF, le 6 juillet 1990, organisation à but non lucratif, et fondée par John Perry Barlow, John Gilmore et Mitch Kapor. Elle a pour mission de concilier les conflits inévitables qui ont commencé à se déclencher à la frontière entre le cyberespace et le monde physique. Et là, je cite quand même le manifeste lui-même. Si de nombreuses organisations de défense citoyenne existent déjà aux États-Unis à cette époque-là, comme l'ACLU, l'American Civil Liberty Union, elles n'étaient pas encore suffisamment spécialisées et impliquées dans la révolution informatique. La Electronic Frontier est une référence directe à l'ère des pionniers du Far West, une zone de liberté, d'opportunité, au-delà des frontières connues où tout est à écrire. Cette référence libertaire, libertarienne et libérale se heurte à une autre logique. Le bloc de l'Est s'effondre, l'URSS est en train d'imploser. Les forces de l'ordre doivent donc repérer au plus vite quelles sont les menaces potentielles, quitte à s'y méprendre. Pour elles, il est acquis que l'ennemi intérieur est là. Les hippies de la Silicon Valley veulent faire tomber l'ordre établi. En réponse à cet état d'esprit, John Perry Barlow écrit en 1996 la Déclaration d'indépendance du cyberespace, attaquant à ce moment-là la Communication Act, loi qui, selon lui, risquait de mettre Internet sous la coupe du gouvernement américain. Des organisations existent à travers le monde qui tentent elles aussi de réduire les cassures idéologiques entre le monde physique et Internet, comme la Quadrature du Net. Mais l'IFF reste la référence car elle est sur l'ensemble de la chaîne politique, du lobbying auprès des législateurs, l'interpellation des gouvernements et surtout l'assistance juridique. Et l'IFF se montre bien vite fort utile pour le secteur informatique, allant aussi bien avant les lois, devant l'exécutif et au créneau devant les tribunaux, parfois jusqu'à la Cour suprême des États-Unis pour faire invalider des lois qui ont été passées. Et à l'heure de la multiplication des traités internationaux économiques qui remettent en cause loi nationale et droits des citoyens, l'IFF a la masse critique suffisante pour attirer le regard des médias. Très rapidement, l'organisation s'est internationalisée, comme Internet, et avec l'apparition d'autres fondations autour des standards informatiques, comme le W3C, du logiciel libre, comme Mozilla Foundation, ou de gestion de l'infrastructure d'Internet, comme l'IETF, elle a trouvé des alliés de poids qui n'hésitent pas à relayer ses campagnes. L'IFF est désormais un modèle non seulement pour la Quadrature du Net, mais aussi pour Amnesty International et Reporters sans frontières, qui sont désormais sensibilisés sur les armes numériques extrêmement puissantes contre la démocratie. Mais tout le problème est justement l'omniprésence du numérique et donc la démultiplication des terrains d'intervention de l'IFF. Du coup, n'est-elle pas allée trop large et ne fait-elle pas un peu trop le jeu de certaines des très grandes entreprises issues du numérique ?